Voilà, c'est le deuxième dimanche de Pâques, c'est l'évangile tous les ans du deuxième dimanche de Pâques, c'est-à-dire l'apparition de Jésus ressuscité au 11, et puis, enfin au 10, puisque Thomas n'était pas là, et puis après au 11 avec Thomas. Et puis donc l'histoire de Thomas qui, comme beaucoup aujourd'hui, disent « moi je ne crois que ce que je vois ». Donc, cause toujours tu m'intéresses, mais ça j'y croirais pas si je le vois pas et si je le touche pas. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de constater comment Saint Jean retranscrit l'apparition de Jésus ressuscité au 10 à la façon, enfin, avec un petit rappel de la Genèse. Si vous connaissez votre Bible, vous vous souvenez qu'il dans la Genèse, il y a deux récits de création, dont l'un nous montre Dieu qui façonne l'être humain avec la glaise, avec la poussière du sol, et puis il lui insuffle une haleine de vie, et l'homme devint un être vivant, voilà, et un vis-à-vis devant Dieu. Et là, Jésus, ayant rassemblé les 10, donc leur apparaissant comme ça, brusquement, Jésus leur dit « La paix soit avec vous », vous avez entendu. Et donc, il répandit sur eux son souffle, et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». C'est pas neutre, et ça nous rappelle la Genèse, donc, et ça veut dire que Jésus est en train de faire une nouvelle création, de nouvelles créatures, par le don de l'Esprit Saint. Et la présentation de Saint Jean nous montre que, au fond, la mort de Jésus sur la croix, sa résurrection au troisième jour et le don de l'Esprit Saint au soir de Pâques, c'est un seul mystère. Voilà, un seul mystère. Saint Luc, lui, va avoir une présentation différente avec un décalage de 40 jours entre la résurrection et la Pentecôte. Enfin, 50 jours, si j'ai bien compté. Et donc, c'est ainsi qu'on célèbre la fête de la Pentecôte, qui veut dire Pentecostès en grec, ça veut dire 50 jours après Pâques. Mais Saint Jean, lui, nous montre qu'on n'a pas attendu la Pentecôte. Jésus n'a pas attendu la Pentecôte pour donner l'Esprit Saint. Déjà, au 10, il a donné l'Esprit, les régénérant totalement par le don de l'Esprit Saint, faisant d'eux des créatures nouvelles, et les envoyant comme des acteurs d'une nouvelle création. Et comment vont-ils faire? Eh bien, Jésus leur dit une seule chose: tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Voilà. C'est l'outil qu'ils ont en main pour faire une nouvelle création. Jésus souffla sur eux, recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Le ministère du pardon que le prêtre a reçu par son ordination, par transmission apostolique, les évêques, puis les prêtres, le ministère de la miséricorde, le ministère du pardon, est une façon de contribuer à une création nouvelle, de façon forte, puissante, par œuvre divine. Voilà. C'est pour ça que je suis tellement attaché à ce ministère, et que vous pouvez m'arrêter dans la rue en me demandant de vous confesser, je m'arrêterai et je serai à votre disposition. Je veux dire par là que c'est très important, contrairement à ce qu'on a dit, c'est dernière dizaine d'années, c'est beaucoup, beaucoup plus important qu'on ne pense de pouvoir recevoir le pardon de ses péchés. Et si on ne peut pas pour une raison X, Y, Z, eh bien, qu'on se repente devant Dieu et qu'on fasse appel à sa miséricorde. Alors j'en viens, je laisse de côté Thomas, vous connaissez, j'en viens à la question du dimanche de la miséricorde. Il se trouve que Jésus a demandé à une religieuse polonaise, Sœur Faustine, au début du XXe siècle, de militer, si j'ose dire, pour la création d'un dimanche de la miséricorde dont Jésus voulait qu'il soit le deuxième dimanche de Pâques. Bon, ça arrive que des gens comme ça disent qu'ils ont reçu une indication divine pour telle ou telle chose. Bien souvent, c'est des gens quelquefois qui ont un peu travaillé du chapeau, et donc il faut faire un discernement et puis dans certains cas, dire non, ça n'a rien d'intéressant. Mais dans d'autres cas, c'est juste. Et donc, il faut que l'Église fasse une enquête et puis regarde de près, quand même à la loupe, si c'est vrai ou pas vrai. Hein. Bon, si vous venez me trouver en vous disant que Jésus vous a dit de me dire que je ne sais trop quoi, croyez-moi, je vais prendre trois paires de loupes pour regarder de près. Mais il se trouve que Jean-Paul II, quand il était archevêque de Cracovie, a dû commencer le procès de béatification, le procès diocésain de béatification de Sœur Faustine, qui était du diocèse de Cracovie. Chaque évêque diocésain, comme ça, de temps en temps, doit ouvrir un procès au Mans, par exemple. On a Monseigneur Fèvre avait ouvert le procès de béatification, le procès diocésain de Don Guéranger, abbé de Solesmes, qui a refondé Solesmes au XIXe siècle. Et récemment, Monseigneur Le Sceau a ouvert le procès de béatification de l'impératrice Zita de Habsbourg, qui était oblate de Solesmes, je crois bien. Et donc, voilà. Donc, et récemment encore, dans le diocèse du Mans, on a eu la béatification de Basile Moreau. Vous avez entendu parler, le fondateur des Pères de Sainte-Croix. Donc, ça fait trois. Dans le diocèse du Mans, par exemple, on a trois saints, si j'ose dire, qui sont en route, dont un déjà béatifié, mais il y en a probablement deux autres à venir dans les dizaines d'années qui viennent. Voilà. Donc, Jean-Paul II, quand il était à Cracovie, a dû ouvrir le procès de béatification de Sœur Faustine, et donc se pencher aussi sur tout ce qu'elle avait dit recevoir de Jésus, sur les écrits qui en étaient résultés, et Jean-Paul II a pu s'apercevoir que ce que Jésus avait demandé à Sœur Faustine était juste, était bon, était théologiquement, ça tenait la route. Voilà. Il faut dire ça parce que, en fait, quand Jean-Paul II a été élu pape en 1978, 3 ans après, il a donné une première encyclique en 1979 qui était le Rédempteur de l'Homme, et 3 ans après son élection, il a donné une deuxième encyclique qui s'appelait Dieu riche en miséricorde. Dieu riche en miséricorde. Une très très belle encyclique sur le Père, plein de miséricorde. Et quand Jean-Paul II, beaucoup plus tard, devenu vieux et atteint dans sa santé, a canonisé, béatifié puis canonisé Sœur Faustine en l'an 2000, a consacré à Cracovie le sanctuaire de la Divine Miséricorde en 2005, je crois, avant de mourir, ou 2003, je ne sais plus, 2003, oui. C'était l'aboutissement de tout un processus qui avait commencé, donc, quand il était archevêque de Cracovie. Et il s'était nourri de ce message, si bien que tout son pontificat est marqué par cet axe théologique de la miséricorde, théologique et puis de piété et de dévotion de la miséricorde. Alors pour faire court, je voudrais, et pour terminer, parce que je prêche toujours trop longtemps, n'est-ce pas ? Quand c'est trop long, vous pouvez crier, taper du pied, je ne peux pas dire, ça fait 10 minutes, on arrête. Parce qu'une homélie, normalement, ne doit pas dépasser plus de 10 minutes, quand même. Mais voilà, je voulais vous attirer votre attention sur la fin de cette lettre sur Dieu riche en miséricorde que donnait Jean-Paul II en 1981, où il explique bien qu'est-ce que c'est que faire appel à la miséricorde. Il disait ceci. « À aucun moment, ni en aucune période de l'histoire, surtout à une époque aussi critique que la nôtre, l'Église ne peut oublier la prière qui est un cri d'appel à la miséricorde de Dieu. Face aux multiples formes de mal qui pèsent sur l'humanité et la menace. Tel est le droit et le devoir fondamental de l'Église dans le Christ Jésus, c'est le droit et le devoir de l'Église envers Dieu et envers les hommes. Plus la conscience humaine, succombant à la sécularisation, oublie la signification même du mot de miséricorde, plus en s'éloignant de Dieu, elle s'éloigne du mystère de la miséricorde, plus aussi l'Église a le droit et le devoir de faire appel au Dieu de la miséricorde avec de grands cris. Ces grands cris doivent caractériser, c'est entre guillemets grands cris, ces grands cris doivent caractériser l'Église de notre temps. Ils doivent être adressés à Dieu pour implorer sa miséricorde dont l'Église professe et proclame, etc. Il faut donc que tout ce que j'ai dit dans ce document, c'est la conclusion de sa lettre, sur la miséricorde, se transforme en une ardente prière, qu'il se transforme continuellement en un cri qui implore la miséricorde de Dieu selon les nécessités de l'homme contemporain. Comme les prophètes, faisant appel à l'aspect maternel de l'amour de Dieu, ayant recours, je saute des tas de phrases, ayant recours à l'amour paternel que le Christ a révélé, ayant recours à Dieu par le Christ, implorant la miséricorde divine pour la génération contemporaine, écrivait Jean-Paul II. Voilà. Pour vous dire que c'est plus important qu'il n'y paraît, et que face à une société qui est marquée effectivement par l'exploitation de l'homme, par le mal, hein, la transformation sociale de la société est un chemin dans lequel les laïcs doivent s'engager. C'est leur tâche, c'est leur rôle. Mais en même temps aussi, la prière est un chemin. Et la prière est un levier important pour la transformation de la société. C'est curieux de dire ça, mais c'est ainsi. Et dans la prière, l'appel à la miséricorde de Dieu par rapport au mal. De sorte que plus le mal pullule, plus la miséricorde de Dieu doit se répandre et, comme un extincteur, au fond, éteindre les conséquences du mal. Dieu est victorieux du mal. L'amour de Dieu est toujours plus grand que le mal le plus grand. L'amour de Dieu est toujours plus grand que le mal le plus grand. Dieu est le seul à pouvoir tirer le bien du mal. Il est le seul à savoir faire ça. Tirer le bien du mal. Et donc, quand il y a un mal qui est commis, un mal très grave, Dieu travaille par derrière à tirer de ce mal un bien pour l'humanité. Mais il joue avec le facteur temps, ça arrivera plus tard. Et plus nous faisons appel à sa miséricorde, comme pour la booster en quelque sorte, plus alors, quelque part, sa miséricorde va se répandre et agir au cœur de ce monde. C'est ce que Jésus tient à ce que nous sachions et que nous le vivions. Il nous l'avait dit en France à Paray-le-Monial au XVIIIe siècle. Il l'a redit à Sœur Faustine au XXe siècle. Sœur Faustine est morte en 1933. Et elle a laissé tout un message au sujet de la miséricorde. Vous pourrez trouver sur Internet, je vous avais donné l'adresse d'un site sur cette question. Mais Jésus dit clairement, dans l'Ancien Testament, j'ai envoyé à mon peuple des prophètes et avec eux la foudre. Aujourd'hui, je t'envoie vers toute l'humanité avec ma miséricorde. Je ne veux pas punir l'humanité endolorie, mais je désire la guérir en l'étreignant sur mon cœur miséricordieux. Ainsi lui demande-t-il que le premier dimanche après Pâques soit instituée la fête de la divine miséricorde. Voilà, et Jésus a donné donc un certain nombre d'indications, comme par exemple le chapelet de la miséricorde que nous pouvons prier, réciter pour faire appel à la miséricorde de Dieu. On l'a fait avant la messe, à 10h moins le quart. Mais encore une fois, ce n'est pas une... Enfin, si, c'est une dévotion particulière, pour être honnête. Mais elle a été maintenant avalisée par l'Église. C'est ça qui est important. Moi, je suis toujours très réticent sur les dévotions particulières, parce que sinon, on va se trimballer avec un kilo de médaille au cou, parce qu'il faut porter la médaille de Saint-Benoît, la médaille de miraculeuse de préférence, la médaille, etc. Non, on n'en sort plus. Et puis, on va avoir 4 ou 5 chapelets différents dans la poche. Non. Mais, quelquefois, l'Église balise. Voilà. Par exemple, ça a été le cas à Fatima, en disant « oui, c'est vrai ». Ça a été le cas pour la miséricorde, Sœur Faustine. Oui, c'est juste. C'est demandé par Jésus. Ça a été le cas à Paray-le-Monial. Voilà. De temps en temps, l'Église se prononce et dit clairement, c'est un axe qu'il faut intégrer. Et c'est vraiment une demande divine. Eh bien, c'est le cas pour ce dimanche de la miséricorde. Et c'est pour ça que ce n'est pas tellement laissé au libre choix du curé de la paroisse qui, si ça rentre dans sa sensibilité, le fait. Et si ça ne rentre pas... Et vraiment atteint d'un mutisme total sur la question. Non, c'est l'Église qui propose que nous entrions dans cette grande démarche demandée par Jésus, faire appel à la miséricorde divine comme un axe important de notre prière. Et en plus, ce dimanche-là, nous pouvons recevoir une indulgence plénière si nous participons à la messe dans ce jour-là, si nous nous confessons 8 jours avant ou 8 jours dans les 8 jours qui précèdent ou suivent, si nous prions aux intentions du pape et pour demander la miséricorde divine, nous pouvons recevoir l'indulgence plénière. Je n'ai pas le temps d'expliquer ce que c'est, mais c'est une grande grâce de miséricorde là encore. Alors soyons des hommes et des femmes qui faisons appel à la miséricorde de Dieu et qui en témoignons par nos actes auprès de tous ceux qui nous entourent.